Merci d'écouter RFI, il est 5h ici à Paris, 20h à Los Angeles.
Simon Bourtembourg.
Un couvre-feu vient d'entrer en vigueur dans le centre de Los Angeles. La nuit dernière, 23 commerces ont été pillés en marge des manifestations contre la politique anti-immigration de Donald Trump. Le président américain promet de libérer la mégalopole californienne où il a déployé des militaires par milliers. Les démocrates parlent, eux, d'un abus de pouvoir. À la une de cette édition également, une nouvelle distribution alimentaire qui vire au drame dans la bande de Gaza. La défense civile locale fait état de 15 morts. L'armée israélienne reconnaît de son côté des tirs de sommation. Et puis en France, l'exécutif entend limiter la vente d'armes blanches aux mineurs. Une nouvelle agression au couteau a coûté la vie hier à une surveillante devant un collège. La nuit tombe sur Los Angeles, la cité des anges, où un couvre-feu vient donc d'entrer en vigueur. Les déplacements sont limités dans le centre de la ville jusqu'au petit matin. Il s'agit là de mettre fin aux actes de vandalisme et de pillage, fait savoir la maire de Los Angeles, Karen Bass. Il faut dire que depuis 5 jours, la mégalopole californienne est le théâtre d'affrontements entre forces de l'ordre et des manifestants opposés aux expulsions musclées de sans-papiers. Alors que 700 Marines doivent rejoindre les militaires déjà déployés par Donald Trump, le président américain a promis de libérer Los Angeles d'une invasion d'ennemis étrangers. Pour les démocrates, c'est l'occasion de faire front commun contre le républicain, Lubna Anaki.
Depuis que le président a décidé d'envoyer la garde nationale à Los Angeles sans l'accord des autorités locales, les démocrates multiplient les attaques et les accusations contre Donald Trump. Abus de pouvoir, menaces pour la démocratie, politisation de l'armée, volonté de semer le chaos. Après des mois à chercher une façon de s'opposer aux nouveaux locataires de la Maison-Blanche, les démocrates semblent saisir l'opportunité des événements de Los Angeles pour parler d'une même voix. Ils accusent Donald Trump d'hypocrisie, lui qui a gracié les émeutiers du 6 janvier dès son retour à Washington. Nous n'avons de leçons à recevoir de personne en matière de loi et d'ordre, surtout pas des républicains, a déclaré Hakeem Jeffries, le chef de la minorité démocrate de la Chambre des représentants. Dans un communiqué, les gouverneurs démocrates ont eux aussi apporté leur soutien à leur collègue de Californie, Gavin Newsom. Mais s'ils espèrent pouvoir peser ainsi contre Donald Trump, les démocrates se retrouvent tout de même dans un exercice d'équilibriste. Certains membres du parti craignent qu'en critiquant trop Donald Trump, il soit perçu comme soutenant les violences qui ont marqué certaines des manifestations de Los Angeles. Lubna Anaki, New York, RFI.
À New York, où ce mardi soir, quelques milliers de personnes se sont réunies là aussi pour protester contre la politique migratoire de Donald Trump. Les négociations sont terminées à Londres. Américains et Chinois annoncent être parvenus à un accord sur un cadre général concernant les droits de douane. Ce nouveau cycle de discussions visait à prolonger la trêve commerciale arrachée il y a un mois, c'était à Genève. Parmi les enjeux de ces négociations, les exportations chinoises de terres rares, cruciales pour les États-Unis, notamment dans les secteurs de l'énergie ou encore de la défense. L'armée israélienne reconnaît des tirs de sommation. La défense civile de Gaza fait de son côté état de 15 morts. 15 personnes qui auraient donc été tuées en essayant d'entrer dans un centre de distribution de colis alimentaires. Tous les jours, des milliers de Gazaouis affamés se rassemblent près de ces rares points d'aide humanitaire. Des distributions alimentaires dont ont découlé une série d'événements meurtriers ces derniers mois. Alors les quelques hôpitaux encore opérationnels dans l'enclave ont beaucoup de mal à faire face à l'afflux continu de blessés. Témoignage à Gaza, recueilli depuis Jérusalem par Sami Bourelifa.
Cette jeune Gazaoui témoigne anonymement depuis l'hôpital de campagne britannique situé dans le sud de la bande de Gaza. Elle est au chevet de son frère grièvement blessé par des tirs de l'armée israélienne alors qu'il tentait d'obtenir un colis d'aide alimentaire.
Il a reçu 2 balles explosives au ventre et à l'avant-bras. La blessure au ventre a été soignée, mais celle de l'avant-bras est compliquée. Plusieurs tendons fléchisseurs des doigts ont été sectionnés et les chirurgiens ont été obligés de suturer 3 tendons sur un seul qui était encore sain.
De la médecine de guerre avec les moyens du bord. Pour le moment, le jeune homme a perdu l'usage de sa main droite.
Mon frère est droitier. On espère vraiment réussir à l'évacuer pour le faire soigner à l'étranger. Les hôpitaux d'ici ne peuvent rien pour lui. Je ne blâme pas les médecins, ils ont fait l'impossible pour sauver sa main. Mais c'est un hôpital de campagne, sous des tentes. Ils ne peuvent pas soigner plus de 20 ou 30 personnes par jour.
Et depuis fin mai, le nombre de morts et de blessés par balle suite à des tirs israéliens explose à Gaza, raconte la jeune fille.
Ce sont des massacres gratuits, quotidiens. La majorité des victimes ont été tuées ou blessées devant les centres de distribution d'aide. Mon frère a 3 enfants, il voulait juste leur trouver à manger. C'est pas une tête brûlée.
Depuis fin mai, c'est une entreprise soutenue par Israël qui gère la distribution de nourriture à Gaza. Sa sécurité est gérée par des sociétés américaines privées employant d'anciens soldats. Le tout sous le contrôle de l'armée israélienne, provoquant un chaos dénoncé par l'ONU. Sami Bourfa, Jérusalem.
Une nouvelle nuit meurtrière en Ukraine. 2 personnes sont mortes et 37 autres blessées dans des frappes russes qui ont visé la région de Kharkiv. Le bureau du procureur local fait savoir que des immeubles d'habitation ont donc été ciblés. Premier des 3 jours de deuil national en Autriche après une tuerie sans précédent dans un lycée. 10 personnes ont été tuées hier par balle par un ancien élève. L'auteur présumé a agi seul et s'est donné la mort dans les toilettes du lycée après son crime, selon la police qui ne donne pas d'informations sur ses motivations. Le chancelier autrichien Christian Stocker a déploré une tragédie nationale. 1 minute de silence doit être observée dans tout le pays ce mercredi à 10h heure locale. Ce drame aussi dans une école en France. Une surveillante d'un collège à Nogent en Haute-Marne a été tuée au couteau lors d'un contrôle des sacs à l'entrée de l'établissement. Des contrôles qui se sont intensifiés à la fin du mois d'avril. Là aussi, après une attaque mortelle, c'était dans un lycée à Nantes. Hier, c'est donc un collégien de 14 ans qui a mortellement poignardé une assistante d'éducation de 31 ans. Alors, comment prévenir ces agressions qui se multiplient dans les établissements scolaires en France? Emmanuel Macron et François Bayrou promettent d'interdire tout de suite la vente de certaines armes blanches aux mineurs. Charlotte Urien-Tomaca.
Les 2 têtes de l'exécutif à l'unisson, quelques heures après le drame. En marge du sommet des océans, le chef de l'État annonce que les règles vont être durcies.
On va intensifier les contrôles, mais surtout renforcer les interdictions. Mais ça veut dire qu'on va durcir les règles, ça veut dire qu'on va mettre des sanctions massives financières, des interdictions. On ne pourra plus vendre ces armes blanches.
Quelques minutes avant, sur le plateau de TF1, c'est François Bayrou qui l'annonce et la mesure sera immédiate.
L'élargissement de la liste des armes blanches, des couteaux, c'est tout de suite. C'est possible en 2025, notamment de l'acheter sur Internet. Et c'est ce à quoi nous allons mettre un terme.
Pour le chef de l'État, les réseaux sociaux sont également responsables. Il faut les réguler.
Moi, je porte l'interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 15 ans. Et donc, je nous donne quelques mois pour arriver à faire la mobilisation européenne. Sinon, négocier avec les Européens pour que nous, on commence à le faire en France. On ne peut pas attendre.
Plus largement, Emmanuel Macron a appelé, je cite, à ne pas céder aux manipulations dans le débat politique, après qu'il a été vivement critiqué pour s'en être pris, je cite, à ceux qui préfèrent brainwasher sur les derniers faits divers.
Sa demande de remise en liberté n'a pas été accordée par la justice tchadienne. On en sait cependant plus sur le sort d'Olivier Monodji, directeur de publication de l'hebdomadaire Le Pays et l'un des correspondants de RFI au Tchad. Le journaliste a été arrêté il y a plus de 3 mois, accusé notamment d'atteinte à la sûreté de l'État ou encore de complot. Esdras Ndikoumana, les faits ont finalement été requalifiés en entretien avec des agents d'une puissance étrangère.
Le procureur général avait décidé de poursuivre Olivier Monodji, notamment pour attentat et complot contre l'État, des crimes passibles de 20 à 30 ans de prison. Le juge d'instruction a décidé de disqualifier ces charges avant de l'envoyer devant le tribunal correctionnel et de simple police pour répondre de fait, je cite, d'entretien avec les agents d'une puissance étrangère et des intelligences de nature à nuire à la situation militaire ou diplomatique du Tchad ou ses intérêts économiques, fin de citation. Ce délit est punissable d'une peine d'emprisonnement de 1 à 5 ans, explique Maître Alain Diliam. Problème, selon cet avocat, le juge d'instruction ne précise pas dans son ordonnance de quelle puissance étrangère il s'agit, ni l'identité de ces agents, ainsi que la preuve de leur qualité d'agent d'une puissance étrangère, seule preuve matérielle avancée, insiste l'avocat, a publié reportage toujours en ligne pour lequel la Hama, l'organe de régulation des médias au Tchad, n'a rien eu à redire à l'époque et qu'il a qualifié de propagande, ce qui ramène l'affaire à un simple délit de presse, dit-il. Nous faisons diligence pour que le tribunal statue rapidement sur ce cas. En attendant, regrette Maître Ndiliam, le juge d'instruction a décidé de maintenir en détention préventive Olivier Monodji ainsi que ses collègues poursuivis dans la même affaire que lui.
Esdras Ndikoumana du service Afrique de RFI. RFI, il est 5h bientôt passé de 10 minutes ici à Paris. C'est la fin de cette édition.